Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Charles et bienvenue sur le podcast First Pitch, votre podcast MLB des équipes de The Free Agent. Et on se retrouve comme chaque début de semaine avec Chris Gougnot. Comment ça va, Chris ?
Salut Charles, ça va très bien sous la pluie, mais ça va, on va bientôt arriver en avril avec l'Opening Day qui va nous donner un peu plus d'envie de pouvoir ressortir dehors avec le beau soleil.
C'est ça. Ça arrive. Les Séoul Series approchent à grands pas. D'ailleurs, on connaît le lanceur partant, il me semble, pour les Padres. Hein, c'est Yu Darvish, du coup, qui lancera. Ça se rapproche.
Exactement. Et de l'autre côté, pour les Dodgers, c'est pas Yamamoto, puisqu'il va lancer le deuxième match. Et c'est Tyler Glasnow qui a été choisi pour partir.
Normalement, si tout va bien, parce qu'en termes de blessures, on va en parler aujourd'hui, il y a une équipe, bon, c'est un peu la même rengaine chaque année, mais ça commence même avant la saison, on en parlera après, parce qu'aujourd'hui, au programme de First Pitch, on va parler de Mookie Betts en particulier, parce qu'il y a un petit changement pour lui en termes de positionnement chez les Dodgers, ça a été annoncé en fin de semaine dernière par Dave Roberts, donc on va voir ce que ça implique. Déjà en tant que joueur, qu'est-ce que ça implique de changer de position. On parlera, comme je vous l'ai dit, de blessures, donc on parle des Yankees et de Gerrit Cole qui va devoir passer une IRM sur son bras de lancer, donc jetant une ombre sur sa potentielle participation à l'Opening Day et qui sait, peut-être même la saison 2024. Et puis, on terminera un petit peu avec l'avis de Chris et de moi-même sur quelles sont les divisions qui, pour nous, nous semblent les plus impactantes, qui seront les plus impactantes sur cette saison 2024. J'espère que vous êtes prêts. On est parti ensemble pour entre 45 minutes et une petite heure de baseball ensemble. Et on commence avec ton équipe, Chris, parce que forcément, on l'a pas fait. Je vous jure, c'est pas Chris qui choisit les sujets. Moi, je lui envoie des propositions. Forcément, il y a un truc avec les Dodgers, donc il va pas dire non. Forcément, la semaine dernière, on en a quasiment pas parlé. Donc là, cette semaine, on se rattrape et on va parler d'un joueur. C'est sûr. On va parler de Mookie Betts, Chris, qui, après avoir été dans le champ droit, après avoir été deuxième base, va se retrouver shortstop cette saison. Dave Roberts a annoncé ça en fin de semaine dernière. Troisième poste en 2 ans pour Mookie Betts. Alors, pour ceux qui ne sont pas forcément initiés, ça peut paraître assez anodin comme changement parce que ça peut arriver. On voit souvent des joueurs passer de la deuxième à la troisième ou de la troisième en shortstop, champ gauche, champ droit, etc. Ça a déjà arrivé. Mais là, 3 postes comme ça en l'espace de 2 ans, pour le joueur en lui-même, avant de parler des Dodgers et des implications que ça va avoir pour eux, qu'est-ce que ça signifie de passer de champ droit à finalement arrêt court ?
Alors, pour Mookie, on va dire que il a déjà commencé l'année dernière, il avait déjà joué quelques matchs en shortstop et en deuxième base, mais effectivement, son plus gros temps de jeu a été au champ droit. Après, je pense que c'est un des athlètes global des plus... allez, pas qualitatif, mais qui a le plus de qualité physique, à la fois de vitesse, de coordination, et je pense qu'il sait quasiment tout faire à toutes les position, un bras énorme, capable de fielder les balles assez facilement et avec dextérité. Et on va dire qu'il a une capacité d'adaptation qui est hors norme et il pourrait peut-être même lancer, peut-être pas, mais je pense qu'il aurait la capacité de jouer tous les postes. Voilà, il fait partie des joueurs qui sont capables de jouer tous les postes. Maintenant, ça me fait dire 2 choses, c'est que, on parlait du recrutement stratosphérique, etc., des Dodgers, mais que finalement, il y a quand même des trous dans la raquette. Et deux, ça montre également, on va dire, que le sport est quand même voué à de l'incertitude, et heureusement, j'ai envie de dire, car Tout serait joué avant et c'est pour ça qu'aussi qu'on le regarde. Mais il s'attendait, Dave Roberts, à ce que Gavin Lux, suite à son intervention chirurgicale de l'année dernière où il n'a pas joué de l'année, qu'il puisse revenir au même niveau. Et avant son intervention, ça devait être le shortstop titulaire. Gavin Lux étant blessé, ils ont fait venir le meilleur shortstop défensif, Miguel Rojas, qui venait des Marlins, aux Dodgers, qui, à lui, a fait une saison défensive absolument incroyable. Maintenant, c'est au niveau frappe, c'est quasiment un des moins bons frappeurs de la Ligue. Ouais. Donc, il a dû faire un choix, Dave Roberts. Maintenant, si moi, je suis le manager des Dodgers, demain, à 100%, je mets Miguel Rojas. Pourquoi ? Parce que tu as 3 MVP aux 3 premiers spots, leader, ouais. deuxième frappeur, troisième frappeur. Rien qu'à ces 3 joueurs-là, tu peux frapper des home runs, tu peux marquer à chaque fois qu'ils passent entre 1, 2, voire 3 points. Ouais. Ils vont passer 3 à 4 fois dans le match. Ils peuvent même enlever 5 frappeurs du line-up. Tu les laisses eux, allez, si, ouais, t'en enlèves 3-4, tu laisses eux plus un autre supplémentaire, ils peuvent gagner tous les matchs. T'as un bon lanceur et t'as ces 3 frappeurs-là, ils peuvent gagner tous les matchs. La preuve en est, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de DH pour les lanceurs et il y avait 8 frappeurs, on savait que le dernier, bah, c'était pas grave. Et c'est ils ça. Arrivaient quand même à marquer 5, 6, 10 points, 12 points. Ça n'a pas d'impact. Par contre, l'impact aujourd'hui défensif par rapport à la fois, et en plus les erreurs défensives dans l'infield, moi je l'ai connu pour la petite anecdote, quand j'ai joué aux États-Unis en université, il y avait une espèce de gangrène, il y en a un qui a commencé à faire des erreurs, le doute a commencé à se semer. Et c'est venu après en troisième base, après c'est venu en deuxième base, après c'est venu en shortstop, etc. Et malheureusement, Dave Roberts, par rapport à ses choix, il est en train de faire en sorte que cette maladie de défensive, d'erreur défensive, puisse être un sujet. Ben, la preuve, on en parle aujourd'hui, alors que ça devrait être normalement les jeux de routine 100% faits, etc. Il n'a pas fait le choix, et donc aujourd'hui, il devrait mettre Miguel Rojas en shortstop, et Mookie, tu le mets en deuxième base. J'ai pas répondu à ta question, je crois. C'est quoi l'impact de le faire passer de champ droit en deuxième base?
Voilà, mais en gros, t'as répondu à la deuxième partie de la question qui était quel était l'impact, parce qu'effectivement, je l'ai pas dit, mais Gavin Lux, du coup, va passer deuxième base, va peut-être même, on parle, j'ai lu à plusieurs reprises qu'il pourrait aller même se refaire une petite santé dans les ligues mineures avant de pouvoir revenir. Mais comme tu le dis, on a l'impression que effectivement, on déplace. Alors oui, Mookie Betts, d'un point de vue physique, il a gagné plusieurs Gold Gloves déjà en champ droit. Il a un bras surpuissant. Quand t'es shortstop, tu as besoin d'avoir un bon bras aussi, parce que tu envoies, quand tu fais les relances en une, il faut quand même traverser tout l'infield. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais on a l'impression effectivement, que Dave Roberts déplace un peu le problème, parce qu'aujourd'hui, lui, il est pas bon. Ok, bon, je vais le mettre ici. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais mettre Mookie. C'est vrai que pour l'alignement de frappeurs, ça change au final peu de choses, parce que 1, Mookie, 2, Shohei, 3, Freddie Freeman. On a peut-être le 1, 2, 3 le plus puissant qui puisse exister aujourd'hui. Mais du coup, pour revenir à la question initiale, en tant que joueur, est-ce qu'il y a des exigences particulières quand tu es shortstop que tu n'as pas quand tu es en champ extérieur, ou vice-versa?
Alors oui, alors déjà, champ extérieur, champ intérieur, c'est totalement différent, et tout le monde n'est pas capable de jouer en infield quand tu as commencé en outfield. En général, tu fais même le chemin inverse. C'est-à-dire que tu commences infielder parce que tu as des qualités athlétiques, etc. Mais au bout d'un moment, ça va trop vite. Du coup, tu as de moins bonnes mains, tu commences à faire des erreurs, tu fais des boulettes, et puis à l'image de Fernando Tatis, hop, on te bascule dans le choix extérieur, parce que c'est plus simple d'y aller. Pour la petite anecdote, ça c'est ce qui m'est arrivé. Moi, j'ai fait shortstop. Il y a un petit jeune qui est arrivé, Sébastien Hervé pour ne pas le nommer, et moi je suis passé après au champ centre Parce que j'arrivais à continuer à frapper. Après, ce qui se passe pour Mookie, c'est que c'est un des meilleurs frappeurs de l'équipe. Donc, on dit souvent, si tu frappes, on te trouverait une place. Voilà. Donc, lui, c'est sûr qu'il aura une place quelque part parce qu'il frappe et il a un impact offensif. Maintenant, name of the game is pitching. Et derrière le pitching, il y a la défense. Et c'est la défense qui te fait gagner les championnats. Donc, il faut qu'il trouve une solution. Et pour qu'il y ait une solution, pour Mookie, être en deuxième base ou shortstop, ça peut se faire. Mais j'ai envie de dire, on l'a vu, j'ai pas regardé énormément de matchs ces derniers temps, mais les peu que j'ai vus, il a pu faire aussi quelques petites boulettes. Il y a eu quelques petites boulettes, un pop fly en infield qui est retombé, une balle qui est frappée avec un short hop, il la bloque un peu à la manière de l'outfielder. Voilà, pour moi, ça n'a pas de sens. Et la gangrène, elle commence un petit peu à se mettre là. Et puis, finalement, il veut bien, je pense que Mookie, il veut bien dépanner sur quelques matchs. Mais être le titulaire, ce n'est pas un bon message pour moi. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire ça quand tu es les Dodgers, tu dis, tiens, je mets mon champ droit en tant que titulaire shortstop. Non, tu mets le shortstop, Miguel Rojas, voilà. Et même s'il ne frappe pas, après, tu mets Mookie de temps en temps. Et puis, quel message tu envoies à Gavin Lux en spring training? Ouais, tu lui laisses même pas le temps. Voilà, on parlait d'une personne qui sait tirer les équipes vers le haut en prenant des joueurs de nulle part et de le faisant monter avec Bruce Bochy, qui lui est capable de monter des équipes au plus haut, des Didier Deschamps, si on parle du foot en France, etc. Ouais. Malheureusement, le même constat depuis des années, et même si j'aime bien les Dodgers, Dave Roberts n'a pas cette capacité de pouvoir prendre des gens. Il a une Ferrari, il sait à peu près la conduire, mais prendre faire des recettes différentes avec des ingrédients qui ne sont pas encore tout à fait très bien faits, etc. Faire en sorte que la mayonnaise prenne au bon moment, au bon endroit. Voilà, il a quelques difficultés. Et c'est pour moi la seule lacune aujourd'hui pour les Dodgers.
Fallait bien en trouver une pour une équipe qui est, qui est donnée ultra favorite pour la saison de 2024. C'est le 20 mars. Les Seoul Series, j'ai oublié la date.
C'est mercredi et jeudi prochain.
Voilà, donc c'est la semaine prochaine, donc c'est bien ça, c'est le 20 mars. Ça sera le premier test au final, grandeur nature pour cette équipe des Dodgers. J'ai essayé d'imaginer, en fait, quand on évoquait le fait de passer de champ extérieur à champ intérieur, j'ai essayé d'imaginer, alors c'est pas les mêmes gabarits, mais la première image qui m'est venue, c'est d'essayer de voir Aaron Judge en shortstop à la place d'Anthony Volpi, et je trouvais que ça allait pas du tout avec les qualités que tu dois avoir pour être shortstop. Il faut être rapide, etc. Il fait plus gros bateau plutôt qu'autre chose. Mookie Betts a plus le physique de l'emploi, j'ai envie de dire, de ce point de vue-là.
Oui, il a les qualités athlétiques.
Mais clairement, d'après ce que les médias américains et The Athletic en particulier disaient, on sentait que c'était une solution temporaire. Il a déjà joué quelques matchs, pas beaucoup, que ce soit un shortstop ou deuxième base. Gavin Lux va se reposer un peu, va essayer de revenir un peu en forme, et puis après on reviendra à une composition plus normale. Moi, j'ai quand même un peu peur que, au final, ça reste la norme chez les Dodgers, et que après, on continue de combler un peu comme on peut les différents trous, et surtout, comme tu parles de gangrène, si la gangrène elle finit par s'étendre, la première base avec Freeman, etc. Quoi.
Après. Première base, ça va parce que tu n'as pas trop de jeux à faire en infield. Maintenant, c'est deuxième base, troisième base et shortstop, oui. Et les Dodgers avaient les shortstop pour, hein. Ils les ont laissés un peu filer. en l'occurrence Corey Seager et Trea Turner, qui ont choisi de partir. Donc peut-être que c'est il fallait faire des choix, et du coup, comme ils n'ont pas mis l'argent pour les garder, c'était pour aller chercher Otani. On peut pas tout avoir dans la vie, je pense que c'était soit Shohei, soit mais en l'occurrence l'année dernière, sérieusement, en défense avec Miguel Rojas, franchement, c'est assurance tout risque. Chaque balle frappée sur lui, c'est un éliminé. Donc moi, quand je suis ici, je suis lanceur, je préfère avoir Miguel Rojas que Mookie Betts, 100%. 100%, parce que je sais que derrière, je vais avoir une équipe qui va être confiante, et c'est le stud. Le shortstop, c'est le stud. C'est celui qui lead la défense, c'est celui qui est présent, et tu dois avoir un shortstop défensif fort. Si tu ne l'as pas, c'est compliqué. Et Mookie a les qualités physiques pour. Il a déjà joué, il jouait shortstop quand il était plus jeune. Il l'a joué l'année dernière, il a fait des excellents jeux, des beaux jeux. Mais. Voilà, c'est quand même un champ droit que tu mets shortstop. Et il faut, malgré tout, quand il enlève sa casquette, il n'a plus trop de cheveux. Donc, il y a aussi le fait qu'il prend aussi de l'âge. Donc, tu as un peu moins de range. Donc, tu vas aller un peu moins sur les côtés. Donc, les back-ends où il faut que tu relances, ce genre de choses. Si vous avez en tête le jeu de Derek Jeter, etc., c'est plus des jeunes qui arrivent à faire ça. Et Mookie, c'est la solution de colmatage en attendant qu'il y ait d'autres qui puissent s'y mettre. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Pour moi, c'est Miguel Rojas en shortstop et Mookie Betts en 2. Gavin Lux, triple A. Si tu reviens, tu reviens en août, si tu as bien frappé, et on trouvera une solution. Ou alors, tu vas chercher à la trade deadline un shortstop. Si c'est possible. Mais à l'instant T, et puis même pour Miguel Rojas, tu lui dis quoi? Pourquoi tu joues pas?
Ouais, c'est ça. C'est un peu ça aussi. Merci pour les services rendus l'année dernière, et puis maintenant on va mettre Mookie, quoi.
Voilà. Je pense que c'est pas des bons signaux. Et autant ils avaient la hype au départ, là ils commencent un peu à se dire, il y a des solutions. Mais bon, ça sert aussi à ça le spring training. Il faut qu'il lui reste une semaine pour trouver la bonne solution.
Et une semaine, c'est plutôt court, une semaine. Vont commencer la saison un peu comme d'habitude. On va parler des Yankees. On va parler de mes chers Yankees retiennent leur souffle. Je ne sais pas s'ils vont réussir à le retenir très longtemps, parce que Gerrit Cole va passer une IRM sur son bras de lancer. Comme d'habitude, l'infirmerie, c'est toujours la même question qui revient chez les Yankees. En plus, l'info est tombée le jour où on a sorti notre preview de l'American League Est. Donc tout de suite, on s'est dit, ça y est, on est les chats noirs. On a dit que c'était l'équipe qui avait le plus de pression dans l'American League Est, parce que Juan Soto, parce que Marcus Stroman, etc. Et là, patatras, possiblement, pas de Gerrit Cole pour l'opening day, et on ne sait pas, parce qu'avec les Yankees, il faut toujours se méfier, ça pourrait être encore plus long. Est-ce que là, clairement, on n'est pas, si jamais Gerrit Cole est out pour la saison, je prends le pire scénario qui puisse arriver. S'il est out pour la saison, est-ce que les Yankees sont out pour la saison?
Oula, la vie tranchée. merci pour la question. La patate chaude. On va essayer de répondre. Alors, bien évidemment, il y a Gerrit Cole qui a maintenu le bateau qui était en train de couler l'année dernière. Il termine quand même quatrième, je suis en train de regarder, avec 82 victoires quand les Orioles en ont 101 et les Rays 99. Donc on est quand même à 20 victoires d'écart par rapport aux Orioles. Sachant que les Orioles se sont renforcés, que les Rays, ils ont pris quand même un coup derrière la tête l'année dernière avec le shortstop qui a eu ses déboires, etc. La fin de saison était quand même très très compliquée. Voilà. Les Blue Jays, c'est pas mal, mais ils peuvent être dans le coup comme on ne sait pas trop. Maintenant, pour aller chercher cette qualification. Et pour répondre à la question, est-ce que c'est fichu ou pas, s'il n'est pas là, je ne vois pas un Marcus Stroman faire la différence comme lui a pu le faire l'année dernière. Et c'est lui, Gerrit Cole, qui a permis de pouvoir au moins aller chercher ses 82 victoires, puisque je crois qu'il en a eu 20. Donc, il a quand même eu 25% des victoires des Yankees. Ouais. Donc, oui, ça a renforcé Juan Soto. Oui, ça a renforcé Marcus Stroman. Mais Stroman non plus, ce n'est pas 20 victoires l'année dernière. Il n'est pas dans son prime. J'adore ce lanceur, mais il n'est pas capable du meilleur comme du pire, mais presque. Alors que Cole, c'est quand même... une valeur sûre sur du long terme et sur une saison complète.
Ouais.
Donc après, la potentielle chance, c'est que Boston Red Sox, eh bien, même chose.
Ouais.
Il faut venir Luke Giolito
et
bam, out pour la saison.
C'est ça.
Donc, pour répondre à la question, si Gerrit Cole il n'est pas là, est-ce que c'est fichu? J'ai presque envie de dire oui. Franchement, je ne vois pas par rapport... Ils ont renforcé Juan Soto, c'est clair, mais un mec qui prend des home runs, ce n'est pas ça qui va faire la différence. Et comme je le dis, il y a 20 victoires d'écart par rapport à l'année aux Orioles. Et les Orioles, pour eux, pour le coup, se sont renforcés.
Voilà, avec l'arrivée de Corbin Burnes, dont on avait parlé lors de l'épisode précédent. Quand tu regardes la rotation aujourd'hui des Yankees, on a Carlos Rodon qui, l'année dernière, n'a pas fait du tout une bonne saison. Il revenait de blessure, ça a été catastrophique. Mmh. Nestor Cortes, qui n'a pas été bon non plus l'année dernière, aussi en raison de blessure. Mmh. Stroman, blessé aussi l'année dernière et qui va revenir, mais dans quel état, on ne sait pas.
Mmh.
Ça commence à faire ça fait beaucoup de points d'interrogation en fait sur la partie la plus importante au final chez les Yankees. Gerrit Cole a gagné le Cy Young l'année dernière, c'est pas pour rien effectivement comme tu l'as dit avec les 20 victoires. Moi j'ai l'avis et en plus de supporter, l'avis il est tranché, c'est clair que ça va être très très compliqué et c'est là où je ne comprends encore pas les hésitations du front office à aller chercher Blake Snell.
Ça va peut-être s'accélérer. Hein.
Est-ce que ça va permettre à certaines choses de se débloquer? On est déjà le 12 mars, dans 16 jours, c'est l'opening day. Du coup, potentiellement, tu n'as pas ton ace pour débuter. Donc, c'est soit Nestor Cortes, soit Stroman Rodon pardon qui devrait débuter en toute logique. Là le front office, ils ont enfin clairement je pense qu'ils attendent les résultats de l'IRM. Si les résultats de l'IRM disent désolé, il est pas là et c'est une Tommy John ou toute autre blessure ou toute autre opération qui nécessite un an de rééducation, je pense que là la faute professionnelle serait de ne pas aller chercher du renfort à ce niveau-là. Oui, l'alignement s'est renforcé avec Juan Soto. Oui, il y a eu Verdugo aussi qui est arrivé. Et peut-être que tout ça mis bout à bout avec... encore une fois, j'ai vraiment l'impression chaque année, depuis qu'on a lancé The Free Agent, j'ai l'impression vraiment chaque année quand on parle des Yankees, j'ai toujours l'astérix qui est accolé avec si l'infirmerie n'est pas remplie. J'ai vraiment l'impression ça, un peu comme les Clippers en NBA, c'est pareil, c'est est-ce que l'infirmerie ne va pas être remplie. Ça me paraît vraiment délicat pour cette équipe, surtout compte tenu effectivement du reste dans la des autres équipes. Les Orioles, ça s'est renforcé en termes de pitching, et en plus, je sais, vous avez peut-être vu Jackson Holliday qui frappe un home run par sortie maintenant, et qui n'a encore pas... Je ne sais plus s'il a joué en MLB déjà l'année dernière, il ne me semble pas. Non. Voilà, qui va arriver et qui a l'air de vouloir bien performer. La concurrence, elle est là aussi dans l'American League Est et je n'ai pas... c'est vraiment un énorme, énorme coup dur pour cette équipe parce que, à moins que d'un seul coup, tu aies les trois qui... trois autres lanceurs qui se sublime, parce que à ce niveau-là, c'est même plus être juste bon, c'est va falloir se sublimer parce qu'il faut compenser l'absence de Gerrit Cole. Ouais, c'est ça me paraît quand même relativement compliqué, quoi.
Et oui, et j'ai envie de dire, comme toujours, name of the game is pitching. Et, voilà. Et l'année dernière, ben, il n'y avait que lui. Donc, quand il était sur la butte, ben, tu peux gagner. Voilà. Mm. Et malheureusement, ben, le contraire est très vrai. Tu peux marquer 10 points, tu peux avoir un super line-up.
Ben, si tu en prends 15.
Tu n'es pas obligé de gagner. Voilà. Par contre, ouais. Si tu as le lanceur dominant qui va dérouler et qui va fumer tout le monde, bah, tu peux gagner contre n'importe qui. En gros, tu prends un Gerrit Cole, tu le mets en équipe de France, l'équipe de France peut être champion d'Europe. C'est presque ça le constat. C'est, vu qu'il lance tous les quatre matchs sur le championnat ou ce genre de choses, bon, il faut quand même assurer d'autres matchs, mais c'est vrai, c'est ça. Et ou sur un match... Tu peux battre n'importe qui si tu as Gerrit Cole qui est sur le monticule. S'il ne l'est pas, bah, bien sûr, tu peux en prendre 25.
C'est ça.
Donc, voilà. Après, ce qui est dit aussi, c'est que qui peut être un peu rassurant, on verra le résultat, mais c'est parce qu'il a eu un peu plus de mal à récupérer. Et ces lanceurs-là, ils se connaissent parfaitement bien. Ils savent exactement les routines qu'ils doivent avoir, les temps de passage qu'ils doivent avoir et pourquoi ça ne matche pas et pourquoi ça ne revient pas. Grosso modo, il n'a pas eu un choc où en disant bah, « Tiens, j'ai eu une douleur, ça a pété, mon tendon a pété. » En revanche, il dit bah, « Là, je lance. » Et puis finalement, j'ai un peu plus de mal à récupérer. Parce qu'il faut savoir que les lanceurs partants lancent environ une centaine de lancers, plus ou moins en fonction de leur réussite. Ouais. Et ils ont 4 jours à peu près pour récupérer. Le lendemain, ils ne touchent pas une balle. C'est-à-dire que c'est tellement violent comme geste. Au niveau trauma, on ne touche à rien. On ne fait que de la récup, des massages, de la glace, etc. Dès qu'ils ont terminé de lancer, on met la glace pour qu'il y ait cette solution antalgique qui fait que ça dégonfle au niveau des inflammations. Le surlendemain, au bout de 2 jours, on va en muscu, on lance un tout petit peu éventuellement pour bouger. Le troisième jour, on fait un long toss, éventuellement un bullpen, et voir comment ça va. Oui, c'est bon, on peut repartir sur le quatrième jour, 4 ou 5 jours. Voilà les routines qu'ils ont. Donc là, en fait, ce qui est dit, c'est qu'il a lancé, comme d'habitude à peu près, 95-96, sauf qu'il a plus de temps pour récupérer. Donc, est-ce que c'est lié à une blessure qui est possible ? Voilà.
Oui.
Mais est-ce que c'est lié à juste parce qu'il a fait une préparation différente, il a changé de routine ou son angle de bras a changé, il faut peut-être qu'il fixe 2-3 choses pour voir comment c'est, mais j'ai envie de croire pour lui et pour les Yankees que c'est pas grand chose et que ça repart. Maintenant, pour répondre à la question, oui, bien évidemment, s'il est pas là, c'est... Et si on refait la même chose, le même paramètre du manager que les Dodgers, un Aaron Boone, c'est la même problématique que Dave Roberts. C'est qu'ils ont dans les mains de quoi jouer, des bons ingrédients, mais ils ne sont pas capables de les sublimer, de faire une recette de dingue. Quand d'autres, ils ont des ingrédients moyens et ils font une recette de ouf. Et voilà, pour moi, c'est pas... C'est pas des top chefs, voilà. C'est des bons communicants, des bons managers qui connaissent le jeu, etc. Mais c'est pas des top chefs, des génies, des 3 étoiles que tu vas mettre dans une équipe moyenne et qui va sublimer le truc. Donc s'il se retrouve sans son bon ingrédient, honnêtement, je vois pas ce Aaron Boone créer des étincelles et faire des choses. Il a besoin lui de Ferrari pour pouvoir conduire, quoi.
C'est ça. On est d'accord là-dessus. Et ça pourrait être amplifié effectivement si, alors effectivement, si juste Gerrit Cole n'est pas là, c'est déjà un énorme coup dur. Mais si on a d'autres blessures qui se rajoutent dans l'alignement, etc., on a tous les ingrédients, pour reprendre la métaphore culinaire, pour que ce soit une saison à nouveau ratée. Et pour le coup, je reste intimement convaincu que ça peut être très certainement la dernière d'Aaron Boone sur dans le dugout des Yankees, après autant d'années sans remporter le moindre titre ni de participation aux World Series, parce qu'il y a aussi, ça
surtout
qui...
Surtout, tu finis quatrième l'an dernier, quoi.
Ouais, c'était dur. Oui, c'est dur. C'est très dur.
20 victoires des premiers.
La seule consolation, c'était que les Red Sox soient derrière. Il y avait vraiment que ça pour...
78-82, connaissant l'équipe des Red Sox, franchement...
C'était vraiment catastrophique. Bref. Bref, on va pas remuer le couteau dans la plaie, parce que là, je sens que tous ceux qui vont écouter le podcast et qui sont fans des Yankees, et Gaëtan Alibert, le premier, qui va dire « Non, mais c'est pas possible, ils font que dire des trucs méchants sur... »
Non, mais si on suit Gaëtan, il est d'accord sur...
Mais bien sûr qu'il est d'accord. Bien sûr qu'il est d'accord, je sais qu'il est d'accord.
Du board et de ce qui a été fait. Hein.
Je sais qu'il est d'accord avec ça. En parlant de division, du coup, là, on a parlé de l'American League Est, et ce sera le dernier sujet pour aujourd'hui. On va essayer de se plonger un petit peu dans chacune des divisions et essayer de trouver laquelle sera la plus impactante dans la saison. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que, on va dire, peut-être la division la plus relevée, peut-être celle qui enverra le plus d'équipes en série éliminatoire au mois d'octobre 2024, parce qu'on sait qu'il y en a qui seront pas très, très bonnes, il y en a d'autres qui seront un peu plus équilibrées, et puis il y en a d'autres où ça va être la guerre peut-être jusqu'à la fin, comme ça a été le cas, par exemple, l'année dernière pour la division des Rangers, où jusqu'au dernier match, ben, en fait, on savait pas qui serait champion. Est-ce qu'il y a une division cette année pour toi pour prendre la succession de l'American League West de l'année dernière?
Alors, cette question est très très difficile.
Là, il faut sortir la boule de cristal, là, tu vois. Voilà, c'est...
non, mais si on essaie de prendre la question, quelle division va avoir le plus d'impact? Déjà, on peut essayer de séparer American League et National League. Si on sépare, c'est celle dont on parlait tout à l'heure, hein, Orioles, Tampa Bay, Rays, Blue Jays, Yankees, voilà, c'est les quatre équipes, en fonction du Gerrit Cole ou non, qui ont quand même réussi à se renforcer pour les Orioles. C'est les favoris de cette division. Maintenant, les Rays, ils sont toujours présents. Ils ont quand même fait 99 victoires et les Orioles 101. Ils n'étaient pas loin de se qualifier directement, même si la post-season a fait pchit pour eux assez rapidement. Je ne vois pas pourquoi ils perdraient de leur superbe, malgré le fait que Wander Franco ne soit plus là. Voilà, je pense qu'ils sont toujours présents. Ils ont réussi ces dernières années à être quasiment qualifiés à chaque fois. Les Blue Jays sont toujours présents. On attend toujours plus d'eux, mais ils sont toujours presque en top. Et les Yankees, on ne sait pas. En revanche, c'est quand même par rapport à l'American League Central, c'est jamais eux qui vont aller chercher le plus de victoires. Voilà, ils sont à 78-80, quand le dernier de la Ligue, l'an dernier, c'était les Red Sox 78. Donc, l'impact de l'American League Central, c'est moyen. Par contre, sur les Rangers, qui sont quand même les champions sortants,
ouais.
On peut estimer qu'ils vont surfer sur cette hype et sur ce côté, on va aller quand même chercher une super saison. La plus impactante éventuellement sur les non-décisions serait encore, je pense, l'American League West. On sait qu'il va y avoir une bagarre à 4, pourquoi pas les Red Sox, mais moi je vois une bagarre à 4 dans l'American League East, mais ouais. Celle qui peut faire le plus de dégâts pour aller chercher justement les wildcards, ça peut être ces quatre équipes-là, hein, parce que les Mariners, ça fait 2 ans qu'ils sont quand même pas mal du tout. Ils sont pas loin d'aller chercher une nouvelle qualification en post-season. La libération de Shohei Ohtani des Angels, peut-être avec un Ron Washington aux manettes, le old-timer. Peut-être que lui justement, quand on parlait de Top Chef, voilà, ils sont toujours là, les old timers, ils arrivent, ils ont des ingrédients différents, ils apportent une touche et une personnalité autre comme Dusty Baker avec, les Astros, peut-être tout que les Angels peuvent créer une petite surprise. Donc, je dirais American League West. Voilà, si je dois répondre. C'est celle tout qui aura certainement le plus d'impact. Pas forcément dans celui qui va se qualifier au départ, mais pour les places dans les wildcards, ils pourraient aller chercher des places à la bagarre avec la American League East.
Ouais.
Et après, si on fait en National League, à mon avis, voilà, National League West, ce sera comme la East de l'autre côté pour l'American League. Mais Dodgers, voilà, on sait ce qu'ils sont et comment ils sont. Les Diamondbacks, ils sont quand même allés en finale l'année dernière en se qualifiant par une wild card avec 84 victoires. Donc, c'est qui tout double. Hein. Soit c'était vraiment un coup de
chance
et puis ils sont arrivés tout en haut. Soit ça leur propulse avec ces rookies et ces jeunes joueurs vers une dimension un peu plus forte. Attention aux Diamondbacks. Et puis les deux incertitudes, mais capables de pouvoir retourner aussi le truc. On en parlait des Giants. Les Giants et les Padres. Les Padres, s'ils arrivent à trouver la bonne formule et qui finalement ils arrivent à gérer leurs égos, etc., etc., ça peut faire un carton, mais vraiment, vraiment, vraiment très fort. Donc je pense que celle qui aura le plus d'impact, ce sera celle-ci. Et là, les trois places qualificatives en National League seront certainement dans cette ligue-là. Parce que l'année dernière, c'était Braves, Phillies, Marlins qui se sont qualifiés. Alors que... Donc les trois étaient dans la National League East.
Dans la National League East, oui. Tout à fait. Je vais pas redire ce que tu dis parce que je suis absolument d'accord en plus. Parce que je ne voyais pas dans la National League, je ne vois pas au final... les Mets venir se bagarrer cette année avec Atlanta et Philadelphie qui devrait encore une fois je pense aussi être à nouveau compétitif. Donc la National League West, oui, parce que les Giants pour moi sont vraiment la grosse curiosité, je trouve vraiment
ça qui tout double,
c'est vraiment qui tout double pour eux. Ils se sont réveillés sur le tard, ils ont fait venir quelques joueurs intéressants et tu peux te dire en fait si ça clique ça peut poser des problèmes. Les D-backs, la logique veut qu'ils continuent et que ce ne soit pas juste une étincelle et qu'on ait un énorme pétard mouillé et que ça ne fonctionne pas cette année. Si tout reste aligné, effectivement, on risque d'avoir quatre équipes de la... On pourrait avoir quatre équipes de la National League West qualifiées en play-off. De l'autre côté... J'ai quand même envie de croire, je vais mettre la blessure de Gerrit Cole de côté en me disant que tout va bien aller. J'ai vraiment envie de croire qu'il va y avoir une vraie lutte cette année dans l'American League Est. Pourquoi ça ? Les Blue Jays, j'ai vraiment l'impression que c'est l'année ou jamais. Enfin, c'est vraiment l'année où si ça ne réussit pas, on va repartir de zéro parce que ça fait tellement d'années, ça fait au moins 3-4 ans qu'à chaque fois on leur dit ils vont performer, on va les retrouver en playoff, il y a des bons joueurs, Vladimir, Bobichet, etc., etc., Springer, et puis qu'au final c'est pas mal mais c'est pas suffisant. Il y a eu l'émergence des Orioles, comme tu l'as dit, les Rays, on voit pas pourquoi ils seraient pas plus mauvais cette année. L'année dernière, ils ont quasiment pas eu Franco, ça s'est pas posé de problème. Donc typiquement la bataille à 4, elle a tout lieu d'être dans cette division aussi. Donc j'irai sur l'Est pour l'American League et l'Ouest pour la National League. Sur les divisions les plus vraiment les plus impactantes, celles qui seront vraiment les divisions popcorn, on va dire, où tu sais que ce sera tendu jusqu'au bout, parce qu'il n'y aura pas comme dans l'American League Centrale, où au final, C'est à se demander s'il faut pas. Ça sera peut-être encore une fois l'occasion d'avoir le débat de est-ce que le champion de division doit automatiquement se qualifier pour les playoffs? Ça, c'est. On a le cas en NFL aussi. C'est le débat qui revient chaque année quand tu as une équipe qui est tout juste à 50% de victoire, où tu te dis en fait, elle ne mérite absolument pas parce que tu sais qu'elle va sortir dès le prochain match. Mais bon, ça fera. On pourra en rediscuter au mois de septembre quand ce sera l'occasion de parler de tout ça. Petit truc, voilà, je voulais, parce que tu as parlé des Rangers, et cette semaine, enfin, c'était même ce week-end, je crois, ils ont dévoilé leur maillot spécial World Series, avec du coup le petit liseré doré autour des numéros, autour du Rangers, avec le petit écusson sur le côté. C'est du plus bel effet, franchement. Même si on sait que les maillots sont pas de bonne qualité, visiblement, ni les pantalons, il est très beau. Je tiens à préciser que le maillot des Rangers cette année est vraiment, vraiment, vraiment très, très sympa. Le petit liseré doré, j'avoue que ça fait toute la différence avec le reste. Et puis, on a eu la première photo de Mathias Lacombe. Je sais pas si tu as vu la première photo de Mathias sous l'uniforme des White Sox.
Magnifique.
Je lui ai envoyé un petit message en lui disant que c'était le regard de tueur parce qu'il a le regard bas et tout avec la petite moustache façon cow-boy. Et il a dit j'ai qu'une envie, c'est de rentrer sur le terrain pour leur montrer et tous les dégommer. Et ben Mathias, écoute, on attend que ça. On attend que ça, que tu leur montres de
Ouais.
quel bois tu es.
Non, mais c'est super et je pense que là. Les White Sox ont misé sur lui et on en parlait, je crois, le premier podcast où on m'entendait pas. C'est peut-être l'occasion d'en
C'est ça.
reparler un petit
Bah
peu.
vas-y.
Mais donc Mathias fait partie des top 30 prospects des White Sox. Aujourd'hui, dès la première année, il fait partie des 30 à surveiller dans cette franchise. Quand Ernesto, après 5 ans, je pense, ou je sais pas les années exactes, il n'est toujours pas dans le top 30, même s'il a fait le spring training, là, il a joué quelques matchs, quelques manches, avec plus du succès, hein, mais il n'est pas dans ce sur qui les Brewers peuvent compter en cas voilà, de montée. Maintenant, il peut toujours essayer de s'accrocher à Ernesto cette saison. Il pourrait éventuellement y avoir voilà, des départs à l'été, ce genre de choses. Et on pourrait le voir à la fin de saison à MLB. Tout est possible pour lui. Mais Mathias, pour voilà, son grand bonheur, ou en tous les cas son avenir, c'est que l'organisation, la franchise, fait vraiment un pari et ils aiment beaucoup qui elle est et la différence. Voilà. Je ne sais pas si c'est une différence, en tous les cas, par rapport à lui, c'est que tous les coachs qui l'ont eu entre les mains ont dit, c'est un garçon qui écoute, qui fait ce qu'on lui dit et qui progresse. Et je pense qu'ils ont vu quelque chose et c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. Et s'il continue, et bon, après, c'est un lanceur, donc on va pas lui porter l'œil, hein, mais les lanceurs de nos jours qui lancent des boulets de canon, s'il reste healthy, il y aura forcément un shot à un moment donné, puisque justement, ça casse plus que des joueurs de position et il y a plus besoin de lanceurs. Faites un petit, juste comme ça pour le plaisir, regardez les rosters. De pré-match, du spring training. Vous cliquez preview avant les matchs et vous regardez le nombre de joueurs qu'il y a potentiellement capables de jouer ces matchs-là. Donc, ils sont non roster et invités. Il y a 50 joueurs de position, 50 lanceurs à peu près. Il y a quasiment
C'est énorme.
50 lanceurs dessus. C'est énorme. Et donc des lanceurs, il t'en faut 10, 12, 13, 15 actifs de très très haut niveau. Et il y a une rotation. Donc ça, ce sera certainement le sujet d'un débat un jour sur la Tommy Jones des lanceurs. L'épidémie qu'il y a au niveau des statistiques, le nombre de casses, quasiment, c'est quasiment une à deux opérations par lanceur sur toute une carrière à partir du moment où tu es en minor league. Donc, forcément, il y aura un shot s'il reste en bonne santé et si il a voilà, cette bonne étoile qui le maintient au plus haut niveau.
Carrément, effectivement. On veut pas lui porter l'œil à lui, mais c'est vrai que si jamais il y avait une petite blessure dans le roster des White Sox, on dit ça comme ça, ce serait bien de l'appeler pour qu'il montre de quoi il est capable. Et on le salue, le petit Mathias. Chris, c'est la fin de notre épisode hebdomadaire. Je te remercie une nouvelle fois pour ta présence. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de First Pitch que vous retrouvez bien entendu sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc., etc. N'hésitez pas, si le podcast vous plaît, à mettre les 5 petites étoiles et à vous abonner pour ne rien rater et être alerté dès qu'il y a un nouvel épisode qui sort. Il y en a 1 à 2 par semaine. Cette semaine, il n'y en aura qu'un. Mais la semaine prochaine, sans doute un deuxième épisode avec l'autre équipe que vous avez écouté la semaine dernière, Jérémy et Nico. À la semaine prochaine, Chris.
Merci Charles, merci à tous, à bientôt.
Allez, bonne semaine à tous, à la semaine prochaine, salut. Yeah.